Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, le ballon ovale conjugué par deux ce soir, hein, puisqu'on va parler de rugby à 13 avec le club de Paris-Charenton 13, et puis naturellement, suite à l'émission qu'on avait faite fin mars avec les Cobras de Paris pour le foot US, on fera une chronique dans le cadre de notre partenariat où on essaiera de tout connaître sur les particularités de ce sport au niveau de ses postes. Ça sera en tout cas le menu essentiel de cette émission. On aura aussi notre ami Stéphane Desenclos pour le point foot. En principe, le coup de cœur, coup de gueule de Stéphane Sorindo et puis le grand journal des sports de Théo. Alors, on va saluer tous nos différents invités dans ce studio. On va commencer avec donc Joachim Dacosta, donc cadre technique de la Ligue de rugby à 13. Bonsoir Joachim, ça va ?
Ça va très bien, bonsoir tout le monde.
Je me rappelle, vous étiez déjà là il y a 4 ans quand on vous avait invité.
Hein, tout à fait.
Voilà. Bon, le studio est agrandi quand même.
Il est magnifique.
Voilà, très bien. Alors, vous êtes accompagné ce soir de Océliane Piquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, ça va. Joueuse donc de rugby à 13.
Oui.
Donc, tu nous parles un petit peu de tes motivations, nous dire qu'est-ce qui te pousse dans ce sport. Et puis de Vikram Biko aussi, que je salue. Bonsoir Vikram.
Oui, bonsoir. Ouais.
Éducateur, entraîneur, c'est ça, hein ?
Oui. Tout à
voilà.
Fait.
Et puis j'ai dit, on laissera une petite place, donc un petit quart d'heure, 20 minutes au foot-tuet. Alors elle va parler pour le club. C'est Tania. Bonsoir Tania.
Bonsoir Philippe.
Ça va, te voilà de retour. Ça tombe bien, hein, c'est le ballon ovale ce soir.
Parfait.
Multiplié par deux, hein, le foot-tuet et puis le rugby à 13. Voilà, et puis je vais saluer Théo qui sera avec nous, qui nous fera le journal des sports. Ça va Théo, t'as passé un beau week-end ?
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir à tous.
As-tu le sportif bien dense, bien chargé, bien
comme
rempli,
d'habitude ouais. À chaque fois.
Et t'as le maillot du Paris Saint-Germain, c'est normal.
Pour mercredi.
Oui, c'est ça, on se met en jambes donc pour mercredi. Voilà, alors Joachim, depuis votre venue en 2022, comment va le Paris Charenton 13 ?
Paris Charenton 13, il se développe tout doucement avec ses bénévoles, ses dirigeants, ses licenciés. Il essaye petit à petit de grandir. C'est pas facile parce que c'est vrai que on a la diversité des autres disciplines comme tout le monde. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que par rapport aux années Fast, on a un petit peu de mal à grandir. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et on espère voir une équipe féminine très, très, très prochainement.
Oui, alors, on va en parler. Vous êtes, j'allais dire, un club historique. Hein. Vous êtes le plus ancien club sur Paris. Hein.
Oui, 1934, date de création du club et qui est en parallèle avec la création du rugby à 13 en France.
Mmh. Vous êtes le seul club aujourd'hui sur Paris et sur la capitale.
Oui. Paris-Charenton, c'est le seul club sur Paris, oui.
Et au niveau donc des autres clubs en Île-de-France, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres clubs en Île-de-France ? Parce que c'est vrai, il faut le dire, vous vivez un petit peu dans l'ombre du 15, c'est un désavantage, hein ?
Oui, tout à fait. En Île-de-France, il y a le club de Nanterre,
oui.
De Châtillon,
oui.
Et de Corbeil.
Ah bah Châtillon, c'est pas très loin. Vous êtes pas très loin. Hein. Charenton, ça peut faire un beau derby des fois.
Ouais. On est en entente depuis quelques années avec
Quatre clubs seulement en Île-de-France.
Oui, il y a des clubs qui se créent.
Oui.
Joachim a participé à la création de plusieurs clubs.
Il y a un nouveau club à Freneuse dans le 78.
D'accord.
Avec le rugby club Boucle de Seine.
Mm-hmm.
Voilà. Et nous avons aussi une piste dans l'Essonne, voilà.
D'accord, ok. Dans l'Essonne, il y a eu dans le passé un très bon club, hein, à Fleury-Mérogis. Hein. On se rappelle, un club très très... Ouais. Comment on peut expliquer qu'il y ait si peu de clubs ?
Volonté politique, manque de bénévoles, mauvais choix historique, et aussi peut-être fatigue... Des bénévoles qui sont là depuis longtemps au sein des clubs. Mmh. Et quand ils s'en vont, le club...
Mais vous vivez quand même un petit peu dans l'ombre du 15, non ? Ça veut dire que... Est-ce que vous avez su expliquer votre sport ? C'est peut-être ça un petit peu la particularité, le présenter, parce que certains savent peut-être pas qu'il peut y avoir un club de rugby à 13 dans son coin.
Oui, oui, bien sûr. Bah, on essaye, mais c'est vrai que au niveau du territoire sur l'île de France, le rugby à 15, c'est la deuxième ligue en France.
Ah ouais.
Donc avec plus de 20 000 licenciés. Donc c'est vrai qu'ils nous font de l'ombre. Mais bon, on essaie de faire notre chemin de notre côté. Et puis il y a assez de communes pour essayer de créer d'autres clubs. Mais voilà, ça reste quand même difficile.
Oui, alors, c'est un sport encore qui reste très régional, on va le dire. Hein. C'est là-bas, c'est dans l'Aude, vers Perpignan, dans l'Aude, tout ça, c'est vraiment le secteur. Hein.
Oui, le Bastion, ouais. Les Pyrénées-Orientales, oui, autour voilà. De Perpignan, de ouais. L'Aude, Carcassonne, tout ah, ouais, ça, ouais, voilà. Ouais. Le monde Qatar, c'est, nous, chez nous, c'est la ligue la plus importante, et les trois quarts de licenciés sont là-bas.
Oui, voilà. Et est-ce qu'il y en a beaucoup qui, du 15, passent au 13, ou inverse? Est-ce que c'est aussi des cheminements qui maintenant se font?
Alors, quelques-uns, mais ouais. C'est plus de notre côté vers le rugby à 15.
D'accord.
Parce qu'on est un sport quand même, c'est deux sports complètement différents.
Oui, alors on va en parler, hein. On parlera des règles, des particularités, des spécificités, mais oui, effectivement, il y a moins de contacts, il y a moins de chocs.
Non, il y a beaucoup plus de contacts, ouais. Et les deux philosophies sont complètement écartées, différentes. Et donc, comment on peut garder le ballon avec les six tenues, quoi, les cinq tenues et les six chances, ben en fait, les joueurs vont beaucoup plus vite à l'impact, et comme ils savent qu'ils peuvent garder le ballon. Et donc, c'est beaucoup plus spectaculaire, oui.
Alors, on va justement parler un petit peu des règles qui sont différentes. Donc, vous pouvez peut-être un petit peu nous en parler pour le grand public hein, qui ne connaît peut-être pas beaucoup le rugby à 13. Alors déjà, il y a un décompte de points qui est différent.
Oui.
Hein ?
Oui.
Ouais. Donc, essai 4 points.
Tout à fait.
Pénalité 2 points.
Tout à fait.
Et drop 1 point.
Tout à fait. Ça veut dire que si vous voulez gagner un match, il faut en marquer des drops.
Ah oui, c'est ça.
Par rapport au rugby à 15.
Dans le rugby, il y en a moins en moins, je trouve, des drops, moi.
Ouais. Oui, quand les deux équipes sont au coude à coude et qu'il ne reste pas beaucoup de temps, en général, l'une ou l'autre essaye de marquer un drop. Ouais.
Ouais, oui. Alors, il y a quand même 40 minutes, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de rock, moins de rock, une défense à 10 mètres.
Alors, il y a pas de. Alors, nous, on appelle ça le rock, c'est le tenu.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, comme les deux philosophies sont totalement différentes. Nous, on peut garder la balle quand on est plaqué,
c'est ça.
À la différence du 15 qui eux, s'ils gardent le ballon, ils sont pénalisés. Mmh. Et donc, ça donne des chances aux deux équipes et beaucoup plus, partagées.
Mmh.
Voilà.
Alors, au niveau pas de touche, démêlée à 6
Démêlée à 6, mais c'est plus une remise en jeu qu'un vrai moment de conquête par rapport au 15.
Mmh. Et puis, on est un petit peu plus permissif sur les plaquages.
Alors, on peut plaquer jusque en haut des épaules, la ligne des épaules. C'est autorisé, les plaquages. Par contre, on doit ouvrir le bras et non mettre le bras côté corps. Voilà.
Mmh. Et au niveau de l'arbitrage vidéo, il y en a moins dans votre sport?
Alors, il y en a... C'est pas qu'il y en a moins.
Parce que c'est plus aéré, peut-être.
Non, c'est pas qu'il y en a moins. Il y en a autant au niveau. Il y en a autant parce qu'en fait, c'est le rugby à 13 qui l'a créé, entre guillemets, et que le rugby à 15 l'a chippé aussi, le bunker. Il y en a autant, sauf que ça va beaucoup plus vite dans la décision.
Allez,
et donc, on n'attend pas une, deux, trois minutes.
C'est ça.
Ça veut dire que dès qu'il y a un questionnement de l'arbitre, et ben de suite, le bunker, il a anticipé et il donne quasiment la validation d'essai ou pas d'essai ou sur une faute, technique.
Mmh. Donc, vous essayez, vous, de pouvoir continuer à faire perdurer ce sport. Vous êtes combien cette année donc, dans votre club? Oui, Vic.
Dans le club, en fait, on a, au niveau de l'école de rugby, on a une trentaine, j'ai une quarantaine d'enfants maximum.
Et les jeunes qui viennent, ils restent dans votre sport? Ou alors ils viennent voir et puis après ils viennent
certains restent,
comme ça se fait souvent. Hein.
Certains restent et puis d'autres, moi par exemple, il y a deux ans, trois ans, l'équipe junior U19 a été en demi-finale de championnat de France à 9. Et l'année suivante, j'ai perdu des joueurs qui sont partis pour des études en province.
Bah oui, c'est
et
problème,
on tournait avec un effectif de 14 joueurs. Mm-hmm. Donc, du coup, plus d'équipe.
Mm-hmm.
Donc, en fait, oui, voilà. Quand on arrive à garder quelques joueurs, je dirais là, par exemple, sur les 40, peut-être qu'on en gardera une petite dizaine.
Mm-hmm. Ah oui, oui. Et donc, ensuite
certains vont vers le 15.
Ouais.
C'est plus de tournois.
Mm-hmm.
Et puis d'autres changent de sport. Ils ont découvert le rugby à 13, ils ont joué pendant quelques années, puis après ils vont
au foutu Espoir. Non, je blague.
Il y a justement il y a une similitude avec le foot US parce que c'est un jeu de gagne terrain.
Ouais. Ah oui, c'est ça.
C'est le rugby à 13, c'est comme le foot US, c'est un jeu de gagne terrain, on avance. Sauf que comme au foot US, ils ont 4 tentatives pour gagner 10 yards. Enfin, je laisserai les amis parler. Nous, c'est 5 tenues pour aller marquer l'essai.
Et ensuite, donc, les autres catégories, alors, après les autres, dans votre club ?
Alors, il y a l'école de rugby, on commence avec le baby rugby.
Ouais, c'est ça.
C'est les enfants de 5 ans. Ensuite, on a la catégorie U7, c'est les enfants de moins de 7 ans.
Alors, tout ça, on leur initie le sport sous forme ludique. Hein.
Voilà. Voilà. C'est ludique. C'est pas beaucoup de contact, pas de contact. Jusqu'à U13 où on limite les contacts. Et c'est juste, voilà, c'est les règles du rugby, le maniement du ballon, et puis les règles du jeu aussi.
Et après, les autres catégories, alors ?
Alors, on passe de U7, donc les moins de 7 ans, les U9, les moins de 9 ans, U11, U13. Ensuite, ça, c'est l'école de rugby.
Oui.
À partir de U15, c'est les jeunes. Donc, c'est plus l'école de rugby. Et U17, U19. Et d'accord. Ensuite,
et là, vous avez suffisamment de pratiquants pour accompagner toutes les équipes, quoi, dans les différents championnats.
Non, justement, du fait du manque de joueurs, c'est pas évident d'organiser des tournois. Alors, on fait des plateaux. Donc, c'est surtout Joachim qui s'en occupe en Île-de-France. Et on essaye pour le moment de voir justement au niveau de la catégorie U13 de faire une sélection Île-de-France pour ensuite aller disputer des matchs dans le sud de la France.
Dans le sud de la France, oui. Donc ça oblige aussi à des déplacements. Donc qui dit déplacement dit fatalement argent puis budget, quoi.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Comment, en bus, en train,
Alors... en car.
Ouais, parce que
en car ou ça, en train, par contre, mais...
ça fait des ringoupes, par contre.
Oui.
Ah, ça, par contre, un déplacement en bus, en car, ça fait des ringoupes.
Oui, récemment, le club, l'entente avec Châtillon, Nanterre, parce qu'on s'entend bien quand même, on s'entend relativement bien, on n'a pas le choix pour survivre. En
oui,
fait.
Puis c'est peut-être l'avenir, c'est peut-être là aussi, c'est ces fusions. Ça se fait aussi dans d'autres sports. Hein.
Oui, oui.
Hein, les fusions comme ça entre villes et puis villages. Hein,
Justement, les 4 clubs qui existent depuis quelques années quand même. On a fait un déplacement avec des équipes mixées des différents clubs à Nantes pour faire un tournoi justement.
À Nantes, bien, du rugby à 13, c'est bien.
Oui.
Et puis ensuite, donc, il y a les équipes seniors, je suppose.
Voilà, il y a les équipes seniors. Alors pareil, moi quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, il y avait une équipe senior Paris-Charenton. Petit à petit, les joueurs sont partis... vers d'autres horizons, et du coup, on a joué en entente avec Châtillon.
D'accord.
Et maintenant, il y a une entente avec Châtillon et Corbeil.
Et quelles sont les équipes que vous rencontrez en championnat ?
Alors, c'est des équipes... Il y a des équipes de la région lyonnaise et des équipes du sud, des Pyrénées-Orientales.
Donc, sous forme de match aller-retour, hein, voilà, avec des divisions. Pourquoi le rugby à 13 ? Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport ? Comment vous y êtes arrivé ?
Alors moi, c'est... Alors je connaissais le rugby à 13 avant.
C'est ça qui m'intéresse.
Et c'est
bien
quand j'ai voulu faire du sport à mon fils quand il avait 5 ans. Et en allant au forum des associations de Charenton, je suis tombé sur le stand du rugby à 13 et l'ancien président avec qui j'ai échangé un peu m'a convaincu. Et c'est comme ça que j'ai inscrit mon fils. Et puis, de fil en aiguille, il m'a proposé de l'accompagner le mercredi après-midi pour les entraînements des enfants.
Et on se pique au jeu.
Et voilà. Et il m'a fait passer le diplôme d'éducateur.
Ah, c'est bien.
J'ai joué quelques matchs avec l'équipe senior, mais j'étais déjà assez... j'étais plus tout jeune non plus. Et puis, j'ai passé le diplôme entraîneur pour suivre les gamins que j'avais en U13, U15, etc.
Ouais. Et donc, vous êtes d'accord que la reconnaissance de votre sport, c'est peut-être un manque de communication aussi ? Le faire communiquer, parler, le permettre de le diffuser sur les médias ?
Oui, effectivement. Le fait que ce ne soit pas diffusé dans les médias, le sport est pas connu. Moi, je sais que les gens, quand je dis que je joue au rugby, je précise du rugby à 13, et là, ils me regardent avec les yeux écarquillés. Ah ouais, c'est...
Parce que moi, je suis quand même d'une génération où il y avait quand même des matchs de rugby à 13 à la télé, quand même. On en avait quelques-uns. Hein. Mais, je prends même les télécommentateurs, mais on en avait quelques-uns quand même. Hein. Donc, mais maintenant, c'est un sport qu'on voit pratiquement plus, quoi.
Hein. Oui, voilà.
Ouais. Joachim, vous, c'est votre sport dès le début, quoi.
Oui, moi, d'origine, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc,
pourquoi par rapport au 15?
Ah bah parce que à l'époque, les bénévoles du club de la ville où j'habitais sont venus en école primaire et un samedi matin. Et il n'y avait pas toutes les obligations entre guillemets administratives qu'aujourd'hui. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, ça m'a plu. Et puis, j'ai accroché. Et après, c'est une bande de copains, comme dans tous les sports.
Sûr,
hein, voilà.
Dans tous les sports.
Et puis après, j'ai évolué. Et puis,
entre nous, il n'y a pas d'animosité avec le 15. Vous non, quand même. Il
y en a eu par le passé.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Il faut sortir un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, ça s'aplanit un petit peu plus. Mais j'aurais juste fait remarquer que le club de Paris-Charenton, ils ont près de 100 licenciés quand même.
Oui, c'est ça.
Avec toutes les difficultés qu'ils ont, ils ont quand même 100 licenciés.
Vous avez combien de créneaux d'entraînement?
Alors, on a un créneau le mercredi après-midi.
Alors, on va dire que vous jouez au stade Pershing, c'est ça, hein?
Alors, pour les seniors et les jeunes, c'est au stade Pershing.
Donc, c'est près de la Cipale à Vincennes, qui est bien connue.
C'est dans le bois de Vincennes. Et pour l'école de rugby, en fait, on a un créneau à la Cipale, au Vélodrome Jacques Anquetil, pour le mercredi après-midi, pour l'école de rugby et les U15, U17.
Ouais. Et tous les matchs se déroulent là, quand il y a les compétitions?
Pas tous. Quelquefois, on est obligé d'aller à Pershing, justement, dans le bois de Vincennes.
Mmh, d'accord. Est-ce qu'il y a un public? Est-ce que vous avez des supporters, malgré tout?
Alors, c'est les parents,
des
fidèles enfants,
qui viennent régulièrement, comme
et,
ça
Alors, beaucoup de parents des enfants, et sinon des anciens joueurs, qui ont joué pendant des années au 13, à Paris-Charenton, ou au club... qui existaient à l'époque, qui reviennent voir les matchs.
D'accord. Mmh. Alors, il y a en projet la création d'une équipe féminine, c'est ça,
hein? Oui, tout à fait.
Alors, je vais demander déjà à Céline, pourquoi le rugby à 13, toi?
Eh bien, moi, je suis tombée dans le rugby à 13 il y a 2 ans sur Montpellier, sur une annonce Facebook qui crée elle voulait créer une équipe, les filles. Et
ville très sportive, Montpellier, quand même. Hein. Oui. Il y a du volley, il y a tout. Hein.
Mais le rugby à 13 féminin n'était pas développé encore non plus. On a créé une équipe, justement, là-bas, et ça m'a vraiment sauvée, parce que première année de médecine, c'était compliqué.
Ah oui, c'est sûr.
Surtout quand on part de la maison et que, du coup, on se renferme un peu sur soi. Et vraiment, un coup de cœur pour l'équipe et pour le sport. Parce que moi, je suis vraiment très sport d'équipe et c'est un sport où vraiment, il faut que tu sois avec ton équipe et que tu te soudes très vite pour pouvoir jouer ensemble.
Il aurait été possible de prendre un autre sport d'équipe, surtout à Montpellier, où il y avait le choix quand même.
Oui, mais je suis quelqu'un qui aime bien le contact aussi, j'avoue.
D'accord, ok. D'accord.
Voilà, parce que... J'aime bien le contact et tu te défoules d'une manière différente, parce que j'ai fait plusieurs sports, j'ai déjà fait du basket. Et tu te défoules d'une manière différente, je trouve, en faisant du rugby. Et c'est un sport où justement tout ton corps travaille vraiment, et un sport justement très complet physiquement et en plus psychiquement, parce que tu réfléchis. Enfin, voilà.
Justement, Joachim, ça se passe comment sur le terrain? On reste fair-play, quoi. Il n'y a pas trop de problèmes, même avec les arbitres.
Non. Encore plus dans ces publics-là féminins, ils respectent et sont très respectueux des arbitres. Et même en règle générale, même les masculins et même dans toutes les catégories, on a peu de problèmes comparé à d'autres sports de débordement ou d'irrespect. Elle pourra nous le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les féminines, elles respectent très bien les règles.
Est-ce que les règles évoluent dans votre sport? Parce que pour le rugby, il y a des évolutions régulières, constantes. Hein. Des fois, même le grand public s'y perd un peu, même les spécialistes. Il y a des évolutions régulières dans votre sport?
Alors oui, à peu près tous les 4 ans, au moment des Coupes du Monde. Oui. Par rapport, bien sûr, elles viennent de l'Australie, parce que c'est le sport roi là-bas. Donc, elles sont toujours faites pour... protéger l'intégrité physique des joueurs et des joueuses, et surtout pour que le sport soit toujours plus spectaculaire et que ça aille toujours plus vite. Mm-hmm. C'est ça, en fait, la particularité des nouvelles règles. Ouais. Et on en a quelques-unes, mais ça reste globalement linéaire. Voilà. Ouais.
Vous avez aussi des protocoles commotion?
Tout à fait.
Oui, aussi.
Tout à fait, oui. Mm-hmm. Ouais, à haut niveau, il y a les mêmes... Les mêmes incident qu'au rugby à 15 ou qu'en d'autres sports. Donc, c'est vrai qu'ils font très attention à ces protocoles.
Alors donc, tu décides de partir dans le 13.
Oui, tout à fait.
Tu viens frapper à la porte du club de Paris-Charenton.
Oui, bah, parce que les études m'ont fait bouger.
En tant que Francilienne de Paris, ouais. Et ça se passe comment après ?
Eh bah, au début, on n'est pas beaucoup de filles, mais assez vite, on arrive quand même à recruter quelques filles.
Quand même, il y a quand même...
Là, on est 7 et ça a été assez vite au début de l'année quand même. Et on s'entraîne avec les garçons qui n'ont plus d'équipe, eux non plus. Et du coup, les garçons sont très formateurs parce qu'eux, ils ont déjà joué justement dans des équipes où ils faisaient des championnats et des matchs. Et du coup, même si on ne joue pas qu'entre filles, eh ben, c'est super intéressant, on apprend beaucoup de choses.
Ça va physiquement, le mélange, l'impact, le contact ?
Oui, il n'y a pas trop de problème avec ça. Les garçons, ils sont cool. Et normalement, tu protèges quand même un minimum ton corps avant. Enfin, ton corps est préparé à l'impact. Donc, l'impact n'est pas trop impactant si tu le prends correctement et si tu es préparé, en fait.
Ouais. Donc, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour monter complètement une équipe.
Non, pas
donc,
encore.
Donc, vous recrutez.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Et on va essayer, en plus, de faire un deuxième entraînement avec... l'équipe de Châtillon-Montrouge, justement, le mardi. Parce qu'il y a aussi des filles qui étaient allées vers eux, justement, pour demander s'il y avait une équipe féminine. Et ils n'avaient pas d'équipe féminine. Du coup, ça serait intéressant de les rallier à nous, parce que deux filles supplémentaires, c'est deux filles supplémentaires.
Alors, c'est le but ce soir. Ils sont nombreux à nous écouter. Faites l'appel.
Du coup, entraînement le mardi à Châtillon-Montrouge à 20h et le jeudi au Stade Pershing à 20h aussi.
Donc, ils viennent carrément sur place, ils rencontreront des responsables, des dirigeants, des éducateurs
qui après pourront les renseigner. Et puis, tout le monde accueille. Franchement, on est tous à bras ouverts, on attend toutes. Et même les garçons sont très, très gentils, ils vous apprennent les passes au début, donc pas de problème avec ça.
Et le but, c'est naturellement de...
De pouvoir faire des championnats
des
tournois.
Oui, bien sûr.
Parce que les entraînements, c'est bien joli.
Mais c'est sûr. Ça, oui, parce que c'est aussi un risque, qu'il y ait un risque de, à un moment de se décourager, de dire, bon, c'est un petit peu barbant, je passe à autre chose, quoi.
Oui, parce que les entraînements, c'est beau et tout, mais le but, c'est aussi de jouer, parce que t'as quand même pas la même sensation et la même dynamique quand tu joues vraiment un match que quand tu t'entraînes, même si on fait des matchs aux entraînements. C'est pas...
Théo, je voudrais connaître un petit peu ton opinion sur le rugby à 13, toi.
Ouais. Pour être parfaitement honnête, alors je suis très très loin de tout ça. Le
rugby, il n'y a pas beaucoup de matchs.
Tous les sports avec énormément de contacts, c'est vraiment pas mon dada. Donc,
pourtant, tu aimes les sports d'équipe.
Ah, j'adore ça, mais c'est vrai que le rugby, j'ai toujours été très éloigné, dû déjà par mon physique, donc c'est plus compliqué. Et c'est vrai que le rugby à 13, même à 9, j'en entends très très rarement parler.
Bon, t'as le maillot du PSG, tu sais qu'il y a un lien, on en parlera tout à l'heure, entre le PSG et le rugby à 13. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure,
Bah complètement, on en a parlé tout à l'heure, donc j'en passerai un petit mot.
Ça coûte cher comme sport ?
Non, pas du tout, c'est une paire de crampons. Et ensuite, un casque, un protège-dents.
La licence, c'est combien ?
Alors, à peu près. À Paris-Charenton, licence pour l'école de rugby, c'est, il me semble, c'est le président qui s'occupe de ça, mais il me semble que c'est 170 euros. Ou 180 euros, quelque chose comme ça.
Oui, donc ça reste tout à fait correct.
Oui.
Alors, Joachim, pareil, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent pour le rugby à 13 pour que votre sport soit un petit peu plus encore médiatisé D'abord, bon, je me rappelle, vous étiez venu en 2022, il devait y avoir une Coupe du Monde en France, en 2025. La Coupe du Monde n'a pas eu lieu. Donc ça, malheureusement, au niveau de la médiatisation... c'est raté, quoi.
Ça aurait été une super vitrine pour nous.
Allez, c'est ça.
On l'attendait tous, que ce soit les bénévoles, les clubs, les membres de la fédération. Et c'est vrai qu'elle n'a pas eu lieu pour des raisons financières.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, par rapport au couac des précédents grands événements mondiaux, et dont ceux qui sont passés en France.
Oh bah, ça a tous été des succès.
Oui,
la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques,
pas tous,
la Coupe du Monde de foot,
pas tous,
le championnat d'Europe de foot.
Les Jeux Olympiques d'hiver, ils ont pas tous, en France, ils n'ont pas tous été financièrement.
Financièrement, voilà, c'est ça. On sait que des Jeux d'hiver, ça coûte toujours très cher.
Voilà. Nous, on n'avait pas, les garanties, la fédération n'avait pas les garanties assez fortes financièrement. Et donc, comme l'État a fait un audit, le ministère a dit on arrête tout. Il n'y aura pas de Coupe du Monde en France. Parce qu'en fait, en plus, la particularité, c'était qu'il y avait trois Coupes du Monde en une. La Coupe du Monde homme, femmes et
oui,
U19.
Oui, je me souviens de ça. Oui, oui.
Donc ça devait
on en avait parlé à l'époque, oui, je me souviens
ça.
De
devait ça. Être un superbe événement et une superbe vitrine pour nous. Pour,
oui, parce que là, toutes les grandes chaînes ont retransmis l'événement, fatalement.
Oui, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bon, bah, voilà, on se retrouve encore sous-médiatisé. Et bah, moi, je voudrais juste dire, comme nos amis du football américain, venez essayer. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Le rugby à 13, c'est un sport spectaculaire, avec de bonnes personnes. De bons bénévoles qui travaillent dur, qui travaillent sans relâche et des licenciés qui s'éclatent.
Voilà. Alors justement, il a failli être beaucoup médiatisé dans les années 95-96. On parlait du Paris Saint-Germain avec notamment Canal+, et Charles Bietri. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est Jacques Fouroux hein, qui voulait à l'époque lancer une ligue.
Ouais, que j'ai fait partie avec la ligue d'été qui était passée sur Canal+, France Rugby League exactement, où j'ai fait partie de l'équipe de Paris Île-de-France. Et donc elle débutait au mois de avril et elle finissait au mois de octobre. Et donc ensuite il y a la création avec Charles Bietri et Fou, comme vous l'avez dit, du PSG Rugby League pendant deux saisons en Super Ligue européenne. C'était le grand lancement mondial avec des équipes, des clubs australiens qui venaient jouer même à Charletti.
Il y a eu un énorme succès à Charletti, d'un match. Je crois qu'il y a
tout
eu combien
fait. Le premier match, lancement contre Sheffield Eagles, ils ont fait presque 18 000 personnes.
À Charletti, près d'ici.
Match comble et puis. Pareil, toujours pareil. Le trésiste se met une balle dans le pied, se tire une balle dans le pied. Pas de formation de jeunes, pas d'équipe réserve de ce club-là, que une partie professionnelle. Et donc, pas de réserve, pas de suite.
Ah d'accord, donc c'est pour ça que ça s'est arrêté après. Bon, les télés ont commencé à s'en désintéresser fatalement.
Tout à fait. Et donc après, petit à petit, ça s'est arrêté. Et quand il n'y avait pas... cette manifestation et ce travail, les Anglais qui tiennent la Super Ligue européenne à l'époque, on dit stop, on arrête l'hémorragie, parce qu'il n'y a pas d'avenir, entre guillemets.
Alors vous l'avez dit, c'est l'Australie qui est le pays roi. Alors pareil, pour faire un petit peu le lien le foot, on a joué des matchs à Wembley aussi sur rugby à 13, le grand stade de Wembley bien connu. Aussi beaucoup de matchs de rugby à 13 qui se sont déroulés sur Wembley.
Dans le nord de l'Angleterre, c'est le sport numéro 2. Et le rugby à 13 a la chance de jouer, parce que le rugby à 13 par rapport au rugby à 15 n'abîme pas les terrains. Parce que comme on utilise le ballon, on n'a pas des rucks, on n'a pas des phases de roquettes, donc on n'abîme pas les terrains.
Pourtant, les chaussures, les crampons, c'est les mêmes.
Ouais, mais comme il n'y a pas de conquête, force et de rucks, donc on n'abîme pas la pelouse. Donc c'est vrai qu'on a la chance de voir depuis tout le temps des matchs de rugby à 13 de haut niveau ou des matchs internationaux à Manchester United sur le terrain de Old Trafford ou à Wembley ou sur d'autres terrains comme ça, très, très mythiques.
Oui, alors il y aura quand même un énorme événement, ça sera Jean Brun, dans le temple du stade français du Paris FC.
Samedi 6 juin, ils accueillent la fédération et surtout ils accueillent les Dragons catalans, Perpignan.
C'est la grande équipe française, faut
exactement,
dire.
Exactement, c'est l'équipe très professionnelle qui joue en Super League. Et donc, il faut bien retenir cette date. Le samedi 6 juin, il y a à 16h30 la finale du championnat de France, Super 13, sur Jean Bouin, sur le même terrain. Et puis à 18h30, il y a la Super Ligue anglaise entre les Dragons catalans, dont l'équipe de Perpignan, et le club de Wigan Warriors, qui est le club anglais le plus titré d'Angleterre.
Et là, Jean Bouin va être complet. Il y a Roland Garros qui est pas loin, c'est la même époque, tout ça, ça va être...
Ça va être une belle fête du rugby.
Oui, c'est ça. Alors justement, on gagne bien sa vie dans le rugby à 13,
alors,
pas en France. Peut-être les Catalans.
Les Dragons catalans et les Toulouse Olympiques, qui sont les deux clubs les plus hauts hiérarchiquement. Ils gagnent bien leur vie.
Ils ne sont pas obligés de s'expatrier, de partir en Australie ou en Angleterre.
Non, mais ils jouent avec beaucoup de clubs, contre beaucoup de clubs anglais. Parce qu'en fait, c'est les deux seuls clubs qui sont le plus haut hiérarchiquement au niveau de l'Europe.
Et après, donc, les autres pays, c'est l'Angleterre. Est-ce que ça se développe aussi un petit peu ailleurs, dans d'autres pays?
On est présent dans presque 67 pays.
Ah oui, quand même.
On va dire les 10 grandes nations du rugby à 13, ce sont entre guillemets les nations anglo-saxonnes, hein, l'Australie, mmh, l'Angleterre, oui, les Pays de Galles, oui, oui. L'Irlande, l'Écosse.
Ça, c'est des véritables institutions.
Oui, institutions comme au rugby à 15, voilà. Pareil. Ouais. Et ensuite, on a des pays et des îles dans le Pacifique parce que le rugby à 13 est un sport majeur dans le Pacifique. Ah oui. Donc, ça veut dire dans les îles Tonga, ouais. Fiji, Samoa.
On va aller chercher là-bas, voilà. Comme pour le rugby.
Tout
ouais,
à fait.
On va aller chercher là-bas. Ouais, ouais, ouais. Et après, ils auront à choisir. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais. Et alors, donc, il y a des Coupes du Monde. C'est tous les 4 ans
tous
aussi
les tous les 4 ouais. ans.
Un pair, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui. Après, il y a quoi comme compétition? Il y a des Coupes d'Europe.
Il y a Coupe ouais. d'Europe senior. Mm-hmm. Eh bien, tiens, je tiens à signaler oui. qu'il y a la Coupe d'Europe U19 qui va se dérouler à Font-Romeu.
Ah, d'accord.
J'en profite, du 12 au 19 juillet. Mm-hmm. Voilà. Et la France est un des favoris.
Oui, bah, c'est une région de rugby aussi, Font-Romeu. C'est vrai que là-bas. Ouais. Ouais, oui. Voilà. Et sinon, sur le plan français, donc, vous l'avez dit, les Catalans, il y a d'autres équipes quand même?
Bah,
il y a un championnat de France.
Ah, mais il y a un championnat de France. La preuve, le samedi 6 juin, c'est la finale du championnat oui. de France, le Super 13. Donc, on ne sait pas encore. Les premiers de ce classement sont Carcassonne, Albi, Limoux, Avignon.
Voilà. Voilà. Pour montrer le même secteur. La
exactement.
Même,
ouais,
est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des écoles? Est-ce que dans les écoles, on va parfois, notamment dans ces régions-là, essayer de faire un petit peu de pratique aux jeunes.
Ah bah, c'est la clé de notre développement, que ce soit, oui. soit à Paris-Charenton ou dans d'autres clubs, comme celui que j'accompagne dans le 78. S'il n'y a pas une passerelle qui est mise en place entre la pratique et la découverte au sein des écoles primaires, ou collège ou lycée, il n'y a pas de développement au sein de chaque club. Mmh. Et donc oui, il y a automatiquement des actions de développement qui sont mises en place.
Oui. Oui. Et à Paris-Charenton, vous faites aussi des actions portes ouvertes pour développer un petit peu votre sport ou vous participez à des opérations communes avec d'autres associations sportives?
Alors, il y a le Forum des associations oui. qui se tient au début du mois de septembre tous les ans. Mmh. Et ensuite, à partir du moment où on commence les entraînements, il y a une possibilité pour les personnes, que ce soit les enfants ou les adultes, de venir faire deux
oui,
entraînements d'essai.
C'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, ouais. Mmh.
Donc, deux entraînements d'essai. Et puis, s'ils ils veulent faire plus, ensuite, prendre la licence et s'entraîner.
Et il n'y a pas d'appréhension des parents vis-à-vis de ce sport?
Non, très peu, en fait. En règle générale, nous, à Paris-Charenton, les parents sont assez contents parce que finalement, les enfants, ils apprennent aussi une certaine discipline.
Oui, ça, c'est important.
Le respect. Et puis après, ils se défoulent toute l'après-midi, pendant toute la durée de l'entraînement.
Oui.
Et en général, on a une très bonne relation avec les parents du club. Mmh. Et qui participent quelquefois aux déplacements quand on a suffisamment de places disponibles dans les cars.
Ouais.
Donc, ils participent aux déplacements et puis on fait une fête de club en fin d'année.
Oui, c'est important
de fédérer ça. Tout le monde est invité, ouais, les
sûr.
Parents et tout.
Bien sûr. Ouais, c'est important en tout cas. Au niveau du handicap, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites par la Ligue, tout ça?
Alors oui, et oui. je tiens à signaler oui. qu'à Paris-Charenton, c'est le club en termes de licenciés. Là, on met un petit peu de côté oui. Les licenciés classiques, oui. on va dire, hein, comme oui. les jeunes. Oui. Les, oui. En termes de licenciés sport-santé, c'est ah. le premier club parce qu'ils ont, ah. on a presque 70 licenciés sport-santé
ça,
au
important.
Niveau des seniors de plus de 60 ah, ans. Parce que nous, on a une pratique adaptée au rugby à 13 qui s'appelle le Silver 13 équilibre. Mmh. Et là, on a presque 5 créneaux la semaine sur Paris-Charenton.
Ah,
et donc, on a explosé les records là, sur ce créneau-là, sur les seniors. Et c'est vrai que c'est une discipline, nous, adaptée, qui fonctionne très, très bien.
Oui, donc c'est très important. Très bien. Bah, écoutez, on va écouter le journal des sports de Théo, maintenant. Hein. Théo, tu vas nous faire un petit peu le point sur donc, l'actu sportif du week-end, hein, parce qu'on est une émission complètement omnisport. Malheureusement, il n'y aura pas de rugby à 13. Dans ce journal des sports, moi vous vouliez rajouter des résultats, mais on commence naturellement par la Formule 1, Théo.
Et merci Philippe, en effet oui. on ouvre ce journal des sports par du sport automobile. Alors au Grand Prix de Miami, le pilote Mercedes Antonelli termine devant les deux McLaren de Norris et Piastri. En cas de course, l'Italien s'en est offert 3 de suite et continue de creuser l'écart au classement pilote. En cyclisme maintenant, Tadej Pogačar continue d'éblouir de son talent le monde entier. Hier, le Slovène a remporté la cinquième et dernière étape du Tour de Romandie. Quatrième succès en une semaine qui scelle sa victoire au général. On file en Espagne pour le Masters 1000 de Madrid. Chez les hommes, Yannick Sinner a écrasé Alexander Zverev en moins d'une heure, 6-1, 6-2. Le numéro 1 mondial devient le premier joueur à remporter 5 tournois Masters 1000 de suite. Alors battu 6-2, 6-4, Arthur Fils, lui, n'a rien pu faire non plus face à l'Italien en demi-finale. Le Français a estimé devoir, je cite, « jouer plus de matchs à ce niveau pour pouvoir rivaliser ». Chez les femmes, la numéro 23 mondiale, Marta Kostiuk, remporte son premier WTA 1000 à Madrid. L'Ukrainienne a battu en finale la Russe Mira Andreeva 6-3, 7-5. Et on change de raquette pour le badminton maintenant et les championnats du monde par équipe au Danemark. La France n'a pas pu malheureusement faire tomber la Chine en finale. Une défaite 3-1 au général, mais l'équipe de France ramène tout de même une belle médaille d'argent. Rugby maintenant et la magnifique victoire de l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale de Coupe des Champions. L'UBB s'est qualifié aux dépens de Basse avec une victoire 38-26. Les Bordelais affronteront en finale Leinster, tombeur de Toulon 29-25. Et en Challenge Cup cette fois-ci, Montpellier jouera pour le titre après sa victoire 18-12 face aux Dragons. Les Montpelliérains feront face à Ulster qui l'a emporté facilement sur Exeter 29-12. On part sur les parquets avec le basket. En Euroleague, Monaco bien mal embarqué en quart de finale. Face à l'Olympiakos, les Monégas se sont déjà inclinés par deux fois, 91-70 puis 94-64. Réaction obligatoire demain soir pour le match 3 à domicile. Bourg-en-Bresse crée la sensation en remportant son premier titre européen.
Septième club français de Coupe d'Europe à avoir gagné une Coupe d'Europe.
En effet, le club bressan s'est imposé en deux matchs face au Beşiktaş en Eurocoupe. De victoires 72-60 puis 73-71. En Betclic Elite, 28e journée et victoire de Nanterre 87-69 sur Dijon. Défaite néanmoins du Paris Basket 105-103 à domicile contre Chalon-sur-Saône. Alors au classement, Nanterre récupère sa deuxième place derrière Monaco et devant le Paris Basket. Et un tout petit dernier dribble, si on m'autorise toujours en basket. Petit salut à l'équipe de Saint-Mesmes-le-Tenu qui a remporté hier son quart de finale de Coupe Atlantique 69-63 face à Nord-sur-Erde. Les tenues mémoires seront au rendez-vous dès demi-finale.
T'as raison, faut pas les oublier.
Allez, on file maintenant au handball. Désormais, Ligue des Champions et courte défaite du HBC Nantes pour son quart de finale aller. Défaite 32-30 à domicile face à Barcelone. Match retour à suivre le 6 mai à 20h45. Et dans le championnat, Paris se débarrasse de Chartres 40-20. Le PSG est toujours en tête du classement. Tremblay est 8e après sa défaite 40-35 face à Toulouse pour le compte de la 26e journée. Et hier, Philippe, on avait un duel en tête de championnat dans le championnat féminin, justement. 21e journée en retard, Metz s'impose face à Brest 32-28.
Les deux meilleures équipes, ouais.
Et on referme ce journal des sports comme à l'accoutumée par du volet. En finale de championnat, Montpellier s'impose 3-0 face à Poitiers dans le premier match. Dans le détail, une victoire 25-18, 25-22 et 25-17. Deuxième match qui peut déjà être décisif ce vendredi à 20h à Montpellier. Et enfin, Mulhouse détrône Levallois Paris en finale de championnat féminin. Troisième titre pour le VMA grâce à sa victoire 3-1 au retour. Mulhouse signe un triplé historique en volet féminin français après avoir déjà soulevé la Supercoupe et la Coupe de France.
Ouais, c'est le grand chelem, c'était cette équipe qu'on avait vu gagner la finale de Coupe de France. Ils parlaient de grand chelem, bah ça y est, ils l'ont accompli. En plus, ils étaient sortis en tête de la saison régulière. Donc, quelque part, c'est logique respectée.
Totalement mérité.
Voilà. Merci Théo. Je voulais donc finir par sur le chapitre du rugby. Est-ce qu'un jour, votre sport peut être sous la forme du rugby à neuf, sport olympique?
Oui. Il y a des discussions ont lieu en Australie pour que la pratique du rugby à neuf devienne sport de démonstration au prochain jeu
à l'Australie.
Oui, en Australie. Oui. Ouais. En
2032, ouais.
Ouais. Ouais. Donc on croise les doigts et ça serait aussi une magnifique vitrine pour notre discipline, oui.
Est-ce que le rugby féminin, à 13 naturellement, se développe bien un petit peu partout?
Il commence à se développer un peu partout, mais c'est souvent des équipes qui commencent à se créer et qui n'arrivent pas à subsister dans le temps. Par exemple, à Montpellier, l'équipe, elle a duré un an et après, les joueuses sont parties parce que les études, le travail. Et du coup, en fait, l'équipe, elle voit le jour, mais...
Oui, parce qu'on voit un peu de rugby féminin maintenant à la télé. Est-ce que pour le 13, c'est pareil, il y a un développement important?
Oui, il y a une Coupe d'Europe, il y a une Coupe du Monde aussi. La France est parmi les meilleures nations en féminine. Elle s'est qualifiée haut la main face à l'équipe du Pays de Galles et, oui. Et de la Grèce.
Ouais. Ah, la Grèce.
Oui, il y a, y a du rugby à 13. Ah, oui, il y a du rugby à 13. Ouais. Et donc, elle va participer à la prochaine Coupe du Monde, là, en octobre, comme les garçons. Et mais elle, par contre, elle est dans une poule de la mort, hein, parce qu'avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les deux meilleures nations mondiales.
Ah ouais. Alors, on parlait des Coupes d'Europe tout à l'heure dans le journal des sports pour Théo. Les Dragons catalans, ils ont été en finale, je crois, de Coupe d'Europe. Hein.
Ah ouais, ils ont gagné une cup et ils ont été trois fois en finale. Ouais.
Ouais, donc,
ils
vous êtes aussi un des sports titrés, vous, simplement en collectif.
Ouais, tout
un
à fait.
Un des sports par équipe.
Et puis, je le rappelle qu'officieusement, la France, au rugby à 13, est un des sports collectifs la première discipline championne du monde en Australie en 51.
Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. C'est important ça, il y a un peu qui servent.
Et c'est important. Et aussi, elle avait été en finale d'une des Coupes du Monde, mais ça avait été oublié, on va dire, par les événements de mai 68.
Ah, d'accord.
Voilà.
Est-ce que vous pensez que vous avez des points communs avec le foot US?
Oui, il y a des similitudes. Oui, bien sûr, il y a des similitudes.
D'accord. Eh bien, justement, c'est l'heure maintenant d'aborder notre rubrique. Alors, Tania, d'abord un petit mot. La dernière fois que vous étiez venu, vous aviez un match auquel assistait Théo. Malheureusement, match perdu, la saison s'est arrêtée.
Oui, je vais laisser mon directeur sportif
en parler. Il va en parler. Oui, il prend le micro. Oui.
Bonjour à tous.
Oui, bonjour. Donc, match perdu, malheureusement, la saison s'est arrêtée.
Oui, match perdu.
C'était le week-end de Pâques.
C'était le week-end de Pâques, 20. Match perdu 21-14 contre une équipe qui actuellement est en demi-finale nationale Nord. Mm-hmm. Donc match perdu contre une équipe vraiment de très haut niveau.
Donc la saison est arrêtée.
La saison est malheureusement terminée pour une équipe comme nous qui avons ouvert cette année. Finalement, on est quand même assez content du résultat. Quoi.
Alors on l'a pas fait exprès. Hein. Il y a le rugby à 13 et puis le foot US. Dans les interviews que vous avez entendues, il y a des points communs.
Ouais, il y a des points communs surtout sur le fait qu'on est on ait peu de visibilité les uns et les autres.
Oui, oui.
Et je pense que il faut essayer d'avoir plus de visibilité. Il faut essayer que les jeunes viennent essayer ce genre de sport, que ce soit le rugby à 13 ou nous-mêmes, au lieu d'aller toujours dans les mêmes sports. Et on voit beaucoup de parents qui se plaignent que leurs enfants ne jouent pas. Mais pourquoi ils ne jouent pas? C'est parce que quand vous avez 2000, 3000, 4000 gamins qui vont jouer au soccer ou au rugby à 15, ça ne va pas aider. Venez découvrir d'autres sports comme le rugby à 13 ou le football américain.
Oui. Bon, il y a peut-être, on en a parlé, hein, il y a peut-être aussi une image un petit peu américaine de votre sport. Est-ce que ça peut aux parents peut-être aussi un petit peu peur? Parce que c'est un sport de contact quand même.
Ouais, c'est
encore plus qu'au rugby à 13.
Bah après, je ne connais pas parfaitement le rugby à 13. Hein. Je ne sais pas si c'est un sport de contact au même point que nous. Après, la grosse différence entre les deux, c'est que nous, on a tout l'équipement.
Oui.
Et ça, par moment, l'équipement peut rassurer les parents.
Oui, Joachim.
Ah oui, je voulais juste ajouter que ça fait 2 ans que la National Rugby League, c'est la compétition majeure d'Australie, qui met en place la première journée, on va dire 4 matchs, à Las Vegas. Et donc, les Américains... quand ils vont voir nos matchs, sont stupéfaits des contacts sans les protections, en fait.
En 13 ?
Ah ouais, au rugby à 13.
Ah oui,
donc,
voilà.
Ils se disent, mais c'est des fous complets, en fait.
Voilà.
Et ils aiment beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes des règles avec les tenues et avec la défense qui est à 10 mètres. Voilà. Et donc, ils se disent, mais comment ils font avec tous ces contacts sans protège, sans casque, sans épaulière, sans protège... Voilà, sans protection. Et donc, c'est vrai que c'est très, très spectaculaire.
Ouais. Vous n'avez jamais eu de cas comme ça, des gens du foot US qui sont venus au 13 ou 13 sont partis sur le.
Si, quand j'étais joueur, j'avais un ou deux amis qui sont venus essayer le rugby à 13 et vice versa. Même à haut niveau, on a eu des joueurs australiens qui ont signé des contrats avec des équipes, des franchises de NFL, ouais.
Mmh. Ah ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, oui.
Bah
oui.
Comme quoi, vous voyez.
Hein, ah oui, tout à fait. Nous, on a eu quelques rugbyman. Après, je ne sais pas s'ils venaient du 15 ou du 13, mais on a eu quelques rugbyman qui sont
confinés
chez nous. Ouais. Oui, oui, oui.
Alors, vous vouliez justement, on l'a dit, hein, on en avait parlé, donc dans le cadre de notre partenariat, intervenir, vous le ferez aussi le 8 juin, pour parler un petit peu de votre sport et surtout de la construction d'une équipe qui, en trois parties, hein, se fait en trois parties. On va déjà commencer par l'attaque.
Tu veux commencer?
Oui.
Alors, au niveau de l'attaque, alors faut savoir, justement, comme il y a le rugby à 13, je vais pouvoir poser la question. Nous sommes un des seuls sports où on va pouvoir avoir des gabarits qui vont aller de 65-70 kilos à 170-200 kilos.
Ouf. Ouais.
Après, vous, je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça.
Non, parce que nous, vu qu'on doit reculer à chaque tenue à 10 mètres, c'est quand même assez cardio.
Et, oui.
Et donc, même les avants chez nous, il faut qu'ils courent. Parce que s'ils ne courent pas, ils ne défendent pas. Et s'ils ne défendent pas, bah, ils prennent des essais et ça ne va pas. Donc, voilà. Donc oui, il y a des joueurs de 100, 110, 120 kilos pour les avant, mais ça ne va pas plus haut. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Nous, cette année, on en a un, si je prends ma ligne offensive. Donc la ligne offensive, ce sont les joueurs qui vont défendre le quarterback ou permettre d'ouvrir des trous pour les running backs. Notre ligne offensive cette année, je pense que de tête, elle doit faire 150, 140, 130, 110, 110. Il y a 5 joueurs et le plus fin fait 110 kilos environ.
D'accord. Donc, ça, c'est des postes spécifiques, bien particuliers.
Ouais. C'est vraiment un poste de défense pour permettre au quarterback d'avoir le temps de lancer ou pour permettre au running back, qui est la personne qui va prendre la balle pour pouvoir avancer, de rentrer dans des trous qui vont lui créer dans la défense adverse.
Mm-hmm.
Donc, il faut savoir aussi que la ligne offensive, en général, on essaie d'avoir des joueurs d'environ plus d'un mètre 90 quasiment tout le temps, parce qu'il faut vraiment des grands joueurs pour pallier aux attaques des défenseurs qui vont essayer d'aller chercher le quarterback qui est derrière.
Alors, on en parlait dans la précédente émission, fin mars. Vous avez du coaching permanent quand même, hein, régulier, des turnovers.
Ah oui. Nous, c'est coaching. Oui.
Alors que le rugby à 13, peut-être pas autant.
Non. Nous, il y a 4 remplaçants.
Ouais, c'est ça.
On en a 6 à disposition et c'est surtout les avants à la moitié du temps de la mi-temps de les faire sortir, échanger. Et puis pareil pour la deuxième mi-temps ou vraiment s'il y a une commotion ou une blessure.
Voilà, c'est ça. Il y a des expulsions temporaires aussi.
Bien sûr.
Comme carton pour le rugby, pareil.
Ouais. Carton jaune 10 minutes et carton rouge, va à la douche. Hein.
Voilà.
On n'a pas, pas de temporaire, nous, c'est où on continue ou à la douche. Il n'y a pas l'option entre les deux.
Ensuite, donc, ça, on a parlé de l'attaque, on passe à la défense maintenant.
Donc, au niveau, alors, si vous voulez, au niveau d'attaque, il y a aussi les running backs qui va courir avec la balle que le quarterback va lui donner directement à la main, tout de suite. Mm-hmm. Et il va y avoir les receveurs. Les receveurs, en général, sont des joueurs qui vont être très grands, qui vont être quand même assez athlétiques et très rapides. Parce qu'il faut savoir qu'au foot US, vous avez la possibilité de faire une seule passe en avant. Donc, il faut que les receveurs puissent aller catcher cette passe le plus loin possible, entre guillemets, et donc être assez grand pour pallier aux défenseurs qui vont être là, évidemment, pour arrêter ou leur course ou essayer d'arrêter la passe.
Il faut savoir qu'on attaque le quarterback à 2 solutions. Soit il donne la balle au running back qui court en face pour aller marquer les points, soit il lance au receveur qui, lui, va marquer les points. Mmh. Les solutions, c'est pour ça qu'on attaque. Il y a le QB, il y a le running back, il y a le receveur. Et la ligne offensive.
Bon, j'espère que c'est clair pour le grand public.
Ouais, c'est pas facile.
Ouais, non, mais bon, c'est pour ça que vous êtes là, hein, pour essayer de bien expliquer donc votre sport. Voilà. Ensuite, donc, on passe à la défense.
Alors,
c'est ça,
en défense, ou alors il y a. Ouais. Non. Après, bon, il y a les équipes spéciales, mais si on commence à partir là-dedans, on est là jusque demain matin. Donc, non. Après, vous avez la défense. La défense, il y a 3 postes également. Il va y avoir la D-line, qui sont les joueurs qui vont être juste en face des protecteurs du quarterback. Donc, eux, leur but, c'est juste d'aller chercher le quarterback qui est derrière ou d'arrêter la course du running back. On va dire que c'est un premier rideau défensif. Ils vont être suivis derrière par des linebackers. Linebackers vont être un hybride entre les D-line et les defensive backs qui vont être plus loin. Les linebackers vont être des gabarits, des joueurs d'un gabarit d'environ 80 et 95 kilos. Là où la D-line qui est devant va être plus entre 90 et 110. Les linebackers doivent être capables d'arrêter la course du running back qui va arriver très vite, donc ça doit être quand même des joueurs assez tankés, mais ils doivent être aussi capables d'arrêter les passes des receveurs, donc ils doivent être également rapides. Et après, en troisième rideau, on a les DB, ce qu'on appelle les DB, donc cornerback sur les côtés ou safety à l'arrière du champ. Et là, ce sont plus des joueurs, on va dire, assez fins sur le fait que nous, on va en avoir un qui fait environ 65-70 kilos. Et par contre, ce sont des joueurs très rapides et qui doivent avoir une lecture de jeu énorme parce que ce sont vraiment les derniers sur le terrain à pouvoir arrêter le jeu. Derrière eux, il n'y a plus personne. Derrière eux, il y a le touchdown. Donc, c'est à eux d'arrêter l'action finale.
Oui. Après, il y a une autre particularité. Donc,
après, nous avons les équipes spéciales. Alors, il faut savoir qu'au foot US...
Bah, dites-le.
Alors, au foot US, vous allez démarrer le jeu par un kick-off. Le kick-off, ce sont tout bêtement 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre. Exactement. Et le kicker va envoyer la balle. Il va y avoir un seul returner. Et c'est tout bêtement 10 joueurs qui doivent arrêter le returner contre 10 joueurs qui doivent lui permettre d'avancer le plus loin possible. C'est un 11 contre 11. C'est un peu ça. Et après, vous allez avoir les punts. Alors, les punts, ça va être il faut savoir qu'au foot US, comme on en a parlé tout à l'heure, vous avez 4 tentatives pour faire 10 yards. Si au bout de 3 tentatives, vous vous apercevez que vous êtes très très loin d'avoir fait des 10 yards, vous allez donner un coup de pied dans la balle. Et à partir de là, ça vous permet de renvoyer la balle à l'équipe adverse, mais le plus loin possible pour que l'équipe adverse reparte dans son camp le plus loin possible. Donc là, il y a une équipe de punt, ce qu'on appelle punt, c'est un coup de pied style... comment vous appelez ça au rugby ?
Un drop ?
Ouais, directement, un dégagement. Quoi.
Oui, une touche. Quoi. Non,
style un dégagement, voilà, touche, exactement. Ouais, d'ailleurs, on a la possibilité de l'envoyer en touche. Mm-hmm. Et donc, c'est un petit peu la même chose que le kick-off, à part que là, on va avoir une ligne vraiment comme sur le jeu normal, et il va y avoir un coup de pied, et après, comme au kick-off, vous avez un returner et 11 joueurs de chaque côté qui vont essayer d'arrêter le returner. D'accord. Et la dernière solution, ouais. La dernière chose, ce sont les field goals, comme la transformation au rugby. Alors, je ne sais pas si à 13, vous avez des transferts de points, vous l'avez dit. Donc, même chose, nous, on a une transformation, par contre, qui ne peut être qu'à un point, ou alors... elle peut être aussi à 3 points en 4e tentative, ça c'est encore un cas à part. Et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu comme un punt, c'est-à-dire une ligne, un kicker, un holder. Le holder, ça va être le joueur qui va poser la balle par terre, qui va permettre au kicker de taper dedans pour essayer de la mettre entre les poteaux. Mmh. Voilà.
Voilà, donc ça c'est bon. J'espère que ça éclaire un petit peu le.
C'est pas le simple, public. La ouais, meilleure solution, ouais. C'est de venir nous voir.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est un terrain quand même adapté, hein, le foot US. Il faut dire que voilà, vous avez des terrains, vous avez joué sur des terrains de rugby ou des terrains de foot qu'on est obligé d'adapter avec des pelouses, tout ça.
Oui. Nous, cette année, on a joué sur certains terrains.
C'est ça le problème.
Non, on a un terrain normalement de 100 yards, sachant qu'en France, on joue quand même assez régulièrement sur des terrains de 80 yards.
Mm-hmm.
Parce que toutes les municipalités ne sont pas capables d'avoir un terrain de foot US de 100 yards. Hein. Il y en a même très peu en France qui sont capables de le fournir. Et nous, on a la chance à Paris, au moins, qu'il y en ait un. Mmh. Souvent en province, on se retrouve sur des terrains de 80 yards en herbe, alors que nous, à Paris, on a la chance d'être sur un synthétique de 100 yards.
Mmh. Eh oui. Je voudrais demander à Joachim, les entraînements ont énormément changé dans le rugby à 13.
Oui.
Parce qu'on a vu un rugby qui s'est professionnalisé. Aujourd'hui, on a des troisième lignes qui courent aussi vite que des trois quarts centres. Hein. C'est pareil pour le rugby à 13.
Oui, tout à fait. Même dans les mentalités, avant c'était un peu brut de pomme, hein, on va dire, hein, que ce soit même au rugby à 15. Mais aujourd'hui, tous les encadrants, les éducateurs, les entraîneurs à différents niveaux, différentes catégories sont bien formés. Mm-hmm. Donc il y a des recyclages qui sont suivis. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté à tous les publics et puis à l'air du temps aussi. Nos sports évoluent, que ce soit le foot, le rugby, le football américain ou le rugby à 13. Et donc, on est obligé aussi de se tenir informé, de suivre l'évolution.
Il y a beaucoup de data aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Parce que ça fait partie de l'évolution du sport. Hein.
On travaille
régulièrement avec les data. Hein.
Équipes qui évoluent en national, que ce soit Corbeil-Essonne en division nationale 2 et les U19 de Grigny en U19 nationaux. Mmh. Moi, je travaille avec eux beaucoup avec la data et la vidéo.
Le
lundi, oui.
Ouais. C'est pareil pour Foot US.
Oui, pareil. Je suppose nous, on a même directement un logiciel, je ne sais pas s'il est utilisé en rugby à 13, qui s'appelle Huddle.
Nous, c'est Tech 13.
Oui, donc ça doit être un petit peu la même chose, où on peut mettre directement les entraînements, les matchs dessus, et ça peut être analysé par les coachs en direct pour que les joueurs puissent revoir exactement ce qu'ils ont fait de bien ou mal.
Mm-hmm.
Et ça permet de coacher.
Et on voit aussi des coachs mentaux, de plus en plus.
Et de plus en plus à haut niveau, oui. De plus en plus dans toutes les disciplines. Ils sont de plus en plus importants, oui. Et moi, j'aurais une petite question à nos amis du football américain. Quel est l'effectif pour un club amateur minimum pour être dans les clous, je veux dire, par rapport à une compétition
Il y a beaucoup de contraintes administratives selon le nombre auquel vous voulez jouer. La meilleure chose à faire, c'est de jouer à 11. C'est ce qui est le plus pratiqué. Mais si on n'a pas assez de joueurs, on jouera à 9, puis à 7, selon ce qui se présente à nous, en fait.
D'accord.
Mais quand on commence, c'est très compliqué de trouver des joueurs parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas prendre un joueur d'un autre club. Vous avez le droit à 3 transferts par an.
D'accord.
Donc, si vous ne trouvez pas vos propres joueurs, c'est un petit peu foutu, quoi.
D'accord, ok.
Oui. Joachim, il reste fidèle dans vos clubs, les joueurs, ou les mercatos, ça se fait aussi dans le rugby à 13?
En général, oui, dans les divisions amateurs, oui, surtout chez les jeunes, jusqu'à l'équipe, jusqu'à la catégorie U19. Après, quand ça commence un peu à jouer, que le niveau monte... chez les adultes, il y a quelques changements, oui, mais c'est pas... Les clubs, les joueurs sont, euh, restent dans les clubs où ils ont été formés en général.
Oui, et on arrive à concilier études et sports de haut niveau. Vous avez des sports-études?
Ah oui, on a des sports-études, oui, on a des pôles espoir, oui, mais comme le football américain aussi. Mm-hmm. Non, vous n'avez pas? Ah,
d'accord. Il y en a eu. Il y en a terminé depuis
donc
deux
ça
ans.
Prouve qu'il y a un manque.
Ouais. Nous, on a des centres de formation, des clubs, on a des pôles espoir, on en a quatre. Mmh. Et puis on a des écoles, des classes sport rugby à 13.
D'accord, ok. Bon, il n'y a pas encore un grand centre quand même à
Coussy. Non, il n'y a pas encore un grand centre.
Ça serait peut-être un jour aussi peut-être envisagé. Ouais.
Peut-être.
Ouais. Par contre, vous avez aussi un autre point commun avec le footuel, j'ai vu, c'est que vous avez parfois des noms d'équipes un petit peu.
Oui, alors ça vient de l'Australie.
Oui, ça vient d'Australie, ça.
Et c'est vrai que nous, Châtillon, c'est les Gaulois. Grigny, c'est les Pirates. Nanterre aussi.
Les Pirates.
Corbeil, c'est les Spartiates.
On a les mêmes noms.
Voilà, c'est pareil. Hein.
Voilà. Il n'y a pas de Cobra chez vous?
Non, on n'a pas de Cobra pour l'instant. Non. si, peut-être en Provence. Il y a peut-être les Cobras en Provence. Ouais.
Et ça apporte quel avantage? C'est pour le fun
C'est aussi une identité, entre guillemets.
Oui.
Ça montre bien l'identité du club. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi cette culture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette culture américaine et anglo-saxonne qui vient petit à petit en France, et nous en tout cas la culture australienne, parce que ça vient d'Australie, on s'identifie à ces grands clubs de NRL, les clubs amateurs, ils font exactement pareil, Et puis les enfants, tous les licenciés aiment bien.
Mm-hmm. La couleur de vos maillots, c'est quoi? Bleu, non? Bleu-rouge, non? C'est quoi?
Bleu-rouge, bleu-rouge.
Ouais, ça, c'est une histoire aussi, c'est un passé, donc bleu-rouge. En tout cas, bon, on peut vous rejoindre dès maintenant?
Ah oui, allez-y, venez, venez essayer le rugby à 13, de 3 ans à 92 ans. C'est en sport santé, j'ai André qui a 92 ans.
Et 92
ans et il fait du rugby santé avec moi. Ouais. Donc venez, de 3 ans à 92 ans, vous risquez rien du tout et vous serez bien encadré, vous inquiétez pas. Ouais.
Et les réseaux sociaux sont importants dans votre cas, vous avez pratiquement tous aussi maintenant des réseaux sociaux, des sites internet,
là, par rapport aux féminines, je pense qu'elles sont quelques-unes à s'occuper des réseaux sociaux avec, entre guillemets, le président et puis les bénévoles. Parce que, comme vous dites, sans visibilité, il faut commencer par là.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on est là avec vous aussi pour avoir un petit peu
bien
de visibilité.
Sûr, bien sûr. Voilà. Et nous, on tient à justement ouvrir le micro à tous ces sports dont on ne parle pas beaucoup.
En tout cas, on vous remercie très chaleureusement.
Et je voulais aussi demander, est-ce qu'il y a des compétitions? Alors, dans les compétitions féminines, c'est des tranches d'âge qui sont complètement mélangées pour l'instant?
Normalement, il y a les mêmes tranches d'âge que les masculins, mais du coup là, les plus jeunes ont 17 ans. Et les plus vieilles ont 26 ans.
Donc vous pouvez jouer ensemble.
On fait des surclassements et on joue ensemble. Mm-hmm.
Quels sont les rendez-vous importants pour votre club dans les prochains mois, les prochaines semaines? Il y a un grand tournoi international. Bon, on a parlé de ce qui va se passer à Jean-Bouin, mais
pour le club, c'est la fête du club.
Oui.
Ensuite, le 20 juin, on fait une grande journée sport santé.
Ah, ça,
avec différentes sections qui viennent d'extérieur du club, donc à la CIPAL, avec tous les pratiquants sport santé.
Pas des matchs de jumelage encore. Des fois, on pourrait rencontrer une équipe anglaise ou australienne.
en général, elles viennent en fin de saison. Elles viennent en fin de saison faire des tournées ou par rapport au 6 juin, il y a peut-être une équipe anglaise qui va nous.
Ça serait bien ça.
Qui va peut-être nous contacter pour échanger avec eux. Et après, il y a différentes manifestations. Oui.
Et vous, les Cobras, donc c'est fini? Il n'y a plus rien?
Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien. Des matchs amicaux parce qu'on ne va pas faire rouiller nos athlètes jusqu'au mois de septembre.
Comment on se maintient justement en forme? Ça, c'est important.
Les entraînements continuent. Donc,
bien sûr. Mais à un moment, les entraînements, ça peut aussi lasser, comme on disait.
Ça ne les lasse pas trop.
Fin de saison, ils s'amusent.
Ça ne les lasse pas trop. Donc, on continue les entraînements. On cherche des matchs de post-saison. Et ce sont les solutions pour pouvoir performer l'année suivante. Parce qu'une saison de football américain commence déjà l'année précédente pour pouvoir faire performer l'année suivante.
Exactement.
Si on commence à essayer de performer un mois avant le début du championnat, c'est terminé.
Alors, je crois qu'on en avait parlé. On parlait d'un grand match de rugby à 13 à Jean-Bouin. Vous allez aussi avoir un énorme événement.
La NFL qui arrive à Paris en octobre.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il va y avoir un immense match.
Avec les Saints. les Saints. Après, j'ai pas, on se doute de qui devrait y avoir en face, mais pour l'instant, c'est pas officialisé.
On peut pas en
mais
parler.
Donc, les Saints seront à Paris en octobre 2026, donc cette année.
Oui, donc ça, c'est une belle exposition quand même.
C'est une énorme exposition. C'est ce qui se fait déjà depuis quelques années en Angleterre, en Allemagne, au Brésil, en Australie, maintenant, en Espagne. Maintenant, ça arrive chez nous. Maintenant, il va falloir continuer à surfer sur cette vague-là.
Oui,
et qui reviennent tous les ans aussi.
Bah oui, après, voilà. Mais après, ça peut être aussi des ligues, hein. Donc c'est ça qui va peut-être poser problème réservé à certains clubs, quoi.
Au niveau de la NFL ?
Oui, fatalement.
Comme en Angleterre, ils viendront, j'espère qu'ils continueront à venir tous les ans. Les Saints ont un partenariat avec la France, donc je pense que ce seront les Saints qui viendront régulièrement. Après tout ça, j'en sais pas plus que ça.
Non, bien sûr. Et vous, on va rappeler que vous serez discipline olympique avec le flag.
Nous, on sera discipline olympique 2028, à Los Angeles en 2028 avec le flag.
2028.
Sachant que le flag, c'est évidemment sans contact.
Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci. On vous retrouve le 8 juin pour une prochaine rubrique.
Hein. Merci à vous.
Vous restez tous avec nous, de toute façon, hein, puisqu'on va marquer maintenant une petite pause musicale. Et ensuite, on va parler de ballon rond. Hein, OK ? Le foot. On est tous derrière le Paris Saint-Germain, naturellement, pour mercredi. Allez, la musique et ensuite le ballon rond avec Stéphane Dezenclos d'ici quelques minutes. Voilà, 20h02, on est avec notre ami Stéphane Dezenclos. Est-ce que Stéphane, tu m'entends très bien ? Bonsoir Stéphane.
Ouais, très bien, c'est un grand mot, mais je t'entends.
Bon, c'est l'essentiel d'abord, l'essentiel c'est que ça passe très bien, donc à la radio. Bon Stéphane, c'est vrai qu'on s'est régalé, on a assisté à un match fabuleux mardi entre le Paris Saint-Germain le Bayern. C'est un des matchs de cette Ligue des Champions, hein, sans problème. Hein.
Ouais, bon. Oui. Certains parlent du match du siècle. C'est clair que nous, on a vu des matchs, hein, Philippe. C'est vrai que ça rentre quand même dans les plus grands matchs qu'on ait pu voir. Quoi. C'était un pied incroyable, quoi, qu'on soit supporter du PSG ou pas. D'ailleurs, c'était un match historique.
Oui, c'est vrai que bon, des matchs, on en a vu d'autres, hein, on en a vu aussi là, mais ces matchs-là feront vraiment partie des très grands matchs qu'on a vus. Ça devrait se passer comment le retour ? Un match un petit peu du même tonneau ? Stéphane ?
Oui,
le match retour.
Il y a eu des grands matchs de championnat, je me rappelle un OM au LOM 5-5, je crois, il y a eu des grands matchs, comme OM Montpellier, le fameux ouais. 5-4, des matchs comme ça domestiques, maintenant des matchs internationaux à ce niveau-là en Ligue des Champions. J'ai pas à souvenir. Maintenant, il y a des matchs, il y a des grands matchs qui sont bien pour d'autres choses. Il y a le Bayern Munich Real Madrid, par exemple.
Oui, 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 oui. Voilà.
Qui était quand même aussi un grand match, quoi. Donc, il y a des super matchs sans forcément qu'il y ait 9 buts, mais parce qu'il y a des fois des parades, plus d'arrêts et tout. Mais c'est vrai que non, il n'y a pas beaucoup de. Il y a une finale de Ligue des Champions comme ça. Où,
oui, Milan, entre Liverpool et le Milan AC, on s'en rappelle.
Exactement. Il y a des grands matchs comme ça. C'est sûr que ça fait partie, à mon avis, du top 10, quoi.
Oui. Donc, comment devrait se passer ce match retour, Stéphane? Tu le vois comment, toi?
Ben, je vois pareil.
Oui.
Moins, peut-être pas autant de buts, mais pareil dans l'intensité et tout. C'est-à-dire que les deux équipes ouais. vont jouer pour gagner le match. Et c'est du 50-50, à mon avis, au début du match. Et ça va être encore un grand match, un grand plaisir de voir ce genre de match.
Oui. Alors, Théo, toi, tu as mis le maillot du PSG déjà, hein?
Ouais, en préparation, ouais, un pull, à l'ancienne en plus, avec les anciens logos dessus, mais superstitieux, j'essaye de mettre tout de mon côté.
Bon, c'est sûr que quand on avait un match comme ça, bah, le lendemain, on est resté un petit peu sur notre faim pour le match nul entre l'Atlético Madrid et Arsenal, un partout.
Bah, tout à fait. Moi, ce que je disais beaucoup avec les gens dont avec qui j'ai parlé, notamment, j'étais assez stupéfait, assez outré des commentaires. Bon, il y a eu Fred Hermès sur RMC,
oui,
ça s'est invité pour faire le buzz encore.
Ouais, c'est vraiment surprenant, hein, ces commentaires. Hein, vraiment.
Oui, moi, ça m'étonne pas trop parce qu'il a il fait pour comment. Mais où j'étais moi beaucoup plus étonné, ce Thierry Henry, ceux du match, il dit ça a été super, mais après, il a le lendemain, je crois, il a quand même pas mal dénigré en disant que pour lui, quand même, clairement, c'était 1-0. Le match idéal d'un match de foot, d'un grand match de foot, c'était quand il y avait 1-0. Et je pense que, moi, comme j'expliquais, je pense qu'il y a une petite déformation de ce qu'est le football. Moi, quand j'étais gamin et quand je me rappelle quand on parlait de foot et qu'il fallait expliquer à quelqu'un du foot et tout, ben, on joue à 11 contre 11 et l'objectif, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire et de gagner le match.
Et oui, absolument. Ouais, bien sûr.
Maintenant, effectivement, avec les enjeux aujourd'hui, le pouvoir de l'argent, la pression qu'il y a et tout, les gens vont dire, notamment notre ami Fred Hermel, quand tu gagnes 5-2 un match, puis les gens commencent déjà à dire tu gagnes 5-2, puis si au retour tu perds 3-1 par exemple, ou 2-0, bah, tu vas dire bah, quand tu gagnais 5-2, tu aurais mieux fait de fermer la boutique et tout ça. C'est effectivement, peut-être, mais ça empêche que t'as pas le spectacle, que avant tout, le football, c'est du spectacle, quoi. On se plaint que les gens, ils sont pas assez motivés pour regarder les matchs. On se pose des questions, les droits télé sont baisses, en tout cas en ce qui concerne la France. Donc, il y a une vraie réflexion autour de l'intérêt des matchs de foot, quoi. Et puis, quand on voit ça, effectivement, là, on dit que tout le monde a aimé, quoi.
Oui.
Donc c'est peut-être vers ça qu'il faut aller plutôt que d'avoir un football où effectivement on pense surtout qu'il faut pas se dégager. Là, Atlético Arsenal par exemple, je pense que les deux équipes étaient presque contentes, peut-être un peu agacées Simeone à Madrid, mais sinon les deux équipes étaient quasiment contentes du résultat, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ils attaquaient plus trop d'ailleurs à la fin du match.
Ouais, c'est ça qui est fou, hein. Donc on va rappeler 1-1 entre l'Atlético et Arsenal et Paris Saint-Germain-Bayern 5-4. On aura naturellement l'occasion d'en reparler la semaine prochaine en Ligue Europa, donc en demi-finale, victoire de Braga devant Fribourg 2-1 et Nottingham Forest donc qui bat Aston Villa 1-0. Et en Conférence Ligue, donc Stéphane, le Shakhtar Donetsk qui bat battu par Crystal Palace 3-1 et Strasbourg donc battu au Rayo Vallecano 1-0. Strasbourg peut le faire aussi.
Strasbourg peut le faire, mais il va falloir carrément qu'ils soient transcendés par la Coupe d'Europe parce que leur dernier match en dehors du match retour contre Mayence, en dehors de ça, c'est quand même des bides complets, quoi. Donc on sent une équipe qui a du mal à terminer la saison et qui a surtout du mal à à choisir ses rendez-vous. Maintenant, oui, normalement sur le papier, tu joues le 11e, le 11e championnat d'Espagne, tu joues devant tu dois pouvoir, quoi, mais il y a quand même des choses inquiétantes. Je sais pas si où on est Mega qui était blessé à la fin du match contre Toulouse, je crois, qui s'est blessé. Donc je sais pas s'il va pouvoir jouer, mais c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu inquiétantes. Il va falloir que Strasbourg, sur le papier, Strasbourg peut largement le faire. Ils sont une équipe bien meilleure que le Rayo Vallecano.
T'imagines la semaine prochaine, si on annonce deux équipes en finale, le PSG et Strasbourg, ça sera une année fabuleuse, hein?
Ouais, ce sera une année extraordinaire, ce sera une année extraordinaire quand même pour le football français, c'est vrai.
Absolument, absolument. Allez, on en vient à la donc 32e.
Et on annonce déjà.
Oui.
Avant que t'en parles, faudra ne pas oublier Lyon en finale de la Ligue des Champions féminine.
Oui, oui, mais on va y venir à la rubrique féminine. Hein. Ouais, on va y venir. On va déjà donc entamer la Ligue 1, la 32e journée. On rentre déjà dans la toute dernière ligne droite. Alors, samedi pour Marseille, battu à Nantes 3-0. Paris Saint-Germain, Lorient 2-2. Victoire de Monaco à Metz 2-1. Nice et Lens avant la finale de Coupe de France se sont donc partagés les points 1-1. 1-1, c'est aussi le score entre Lille et Le Havre. Victoire de Toulouse à Strasbourg 2-1. Le Paris FC qui continue sur sa bonne lancée en écrasant Brest 4-0. Victoire d'Auxerre devant Angers 3-1. Et Lyon devant Rennes 4-2. Un commentaire sur cette journée de championnat. Le grand perdant, c'est Marseille, hein, Stéphane.
Ouais, le gros perdant, c'est Marseille, mais pas que de cette journée.
Oui, bien sûr.
Les dernières journées, hein, puisque...
Mais ça confirme, ça continue, quoi. Voilà.
Voilà, ils prennent un point sur les... Depuis qu'ils sont partis en stage à Marbella, là, ils ont pris un point en trois matchs. Deux défaites à l'extérieur contre des équipes à Lorient et à Nantes, et puis un match nul, c'est-à-dire que des équipes classées dans la deuxième partie de tableau. Quand c'est clair que quand tu sais que c'est une équipe qui se dit qu'il y a quelques finales à jouer, pourquoi 3, 4, 5 finales à jouer pour aller en Ligue des Champions, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, il y a le perdant aussi de la journée, c'est quand même aussi un petit peu Lille qui va à Monaco, je crois, la semaine prochaine. Donc, tu avais intérêt aussi à prendre les 3 points. En plus, ils ont fait un match assez intéressant, quoi. Ils sont pas vernis sur ce match. Donc, au niveau du sont quand même un petit peu perdants. Les grands gagnants, c'est bien sûr l'Olympique Lyonnais
qui a battu Rennes 4-2. Hein, ouais.
Ah ouais, et puis qui est avec un super match. On a vu aussi, voilà, quand on voit l'intérieur, c'était un super match de foot, quoi.
Oui. Alors, on va rappeler, donc, Paris, c'est pratiquement fait, hein. Premier avec 70 points. Deuxième, Lens, 64. Et ensuite, effectivement, on va se battre pour les places d'honneur. Troisième, Lyon, 60. Quatrième, Lille, 58. Cinquième, Rennes, 56. Sixième, Monaco, 54. Et septième, Marseille, 53. Le Paris FC est en milieu de tableau avec Toulouse, 10e avec 41 points. Et en bas de tableau, 14e Le Havre, 32 points. 15e Nice, 31. 16e Auxerre, 28. 17e Nantes, 23. Et 18e Metz, 16. Pour Nantes et Metz, c'est cuit. Par contre, attention pour Nice. Hein, Auxerre peut encore le faire. Hein.
Oui, tout à fait. Et moi, je vais vous rappeler quand même Philippe, la saison dernière.
Oui,
hein.
Oui. Reims, oui.
On a Reims qui un peu dans la même position que Nice, semblait un peu pas être sauvé, mais qui disait qu'il faudrait qu'il y ait un concours sur des circonstances pour qu'on joue les barrages, et ceci et cela. Et puis tout d'un coup, ils ont été en finale de la Coupe de France. Alors, la différence, c'est que ils avaient à l'époque un jeune entraîneur, un ancien adjoint, qui avait jamais entraîné au haut niveau, alors que là, Nice a un Clotuel qui doit bien rappeler dans le vestiaire que le plus important, c'est le championnat, c'est avant de penser à la Coupe de France, que ça leur servira à rien d'aller gagner la Coupe, c'est pour aller en Ligue 2. Mais attention quand même, parce que moi, on l'a dit depuis le début ici que Auxerre, je pense, ça veut un peu rien dire, mérite ou mérite pas, parce qu'on est là où on est, mais c'est vrai qu'Auxerre fait des belles choses. Ils ont un super entraîneur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs où ils n'ont pas eu de chance. Ça s'est terminé par des défaites 1-0 ou des 0-0 avec des poteaux, des barres. Ils n'ont pas eu de chance. Et puis là, ils font un super match contre Angers. Et si jamais ils battent, ils ont une bien meilleure différence de but. Donc, il suffit qu'ils gagnent 1-0 contre Nice le match. Et c'est Nice qui va se retrouver en position de barrage.
Bien sûr, bien sûr. Donc, il reste encore du suspense et rien ne fait. Théo, un petit mot sur cette journée de championnat. Qu'est-ce que t'en penses? Tu partages nos analyses?
Plutôt, oui. On a commencé vraiment avec de l'espoir pour mon FC Nantes. Hein. 3-0 face à Marseille.
Pour toi, c'est rapide.
Ça va devenir vraiment très compliqué. Là, il ne reste plus que deux journées. Dans tous les cas, il faut les gagner pour l'honneur. Quoi. Mais on est évidemment dépendant d'Auxerre qui, je suis totalement d'accord, mérite, entre guillemets, pas sa place de barragiste et se bat pour sortir. Parce que franchement, tout au long de la saison, Auxerre a vraiment été assez étincelant dans le jeu. Et je trouverais ça dommage qu'une équipe telle qu'elle sorte de notre belle Ligue 1.
Oui, enfin, il restera les barrages encore.
Évidemment.
Il peut encore se maintenir, hein.
Évidemment, mais bon, quand même, c'est toujours un peu délicat à jouer les barrages. Ouais.
Voilà le suspense donc pour les deux dernières journées de Ligue 1 qui se profilent. En Ligue 2, c'était la 33e et avant-dernière journée. Donc 3, ça y est, ils sont champions de France de Ligue 2 officiellement. Ils ont donc battu Laval 4-0, nul entre Le Mans et Reims 1 partout. Rodez qui donc bat Saint-Etienne 2-1, victoire importante donc pour Rodez. Le Restart qui va gagner à Amiens 3-1 et qui condamne définitivement Amiens. Victoire de Clermont à Montpellier 2-1. Annecy qui s'impose aussi sur le même score contre Boulogne-sur-Mer. Et puis Nancy qui va gagner à Pau 3-1. Victoire de Grenoble à Dunkerque 1-0. Et de Bastia également sur le même score à Guingamp 1-0. Donc 3, on l'a dit, champion de Ligue 2 avec 67 points. Deuxième Le Mans 59. Troisième Saint-Etienne et le Restart 57. Cinquième Rodez 55. Et sixième Reims 53. Ça va être fou aussi cette dernière journée, Stéphane. Et encore bravo pour Rodez hein, quand même. Quelle équipe quand même.
Rodez
7 nuls et 9 victoires. C'est exceptionnel. Ouais. Hein.
Ouais. 19 matchs sans défaite, équipe dans les. Je crois qu'il y a 100 équipes, je crois, sur les 5 grands championnats. Première et deuxième division, il n'y en a pas une qui a réussi à faire ça.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils font un gros match contre Saint-Etienne, qui n'a pas été excellent, mais qui n'a pas non plus été nul, je trouve. Ils ont été battus par plus fort qu'eux. Et c'est vrai que ça nous annonce une dernière journée hallucinante où tout peut basculer parce que. On n'aurait pas écrit un meilleur scénario, quoi. Par exemple, Le Mans, qui est deuxième, va jouer à Bastia.
Oui.
Bastia, en battant Le Mans.
Oui, peut se sauver, peut jouer les barrages.
Peut jouer les barrages. Ouais. Alors qu'ils étaient condamnés depuis longtemps et tout ça. Donc, je vous explique pas, si vous avez déjà été à Furiani, l'ambiance qu'il va y avoir et la folie que ça va être, quoi. Le Mans, qui est une équipe, donc, qui vient de National, qui faisait quelque chose d'exceptionnel, quand même, parce qu'on parle de Rodez, je suis d'accord, hein, mais qui a un tout petit budget, mais Le Mans a un budget à peine supérieur, hein, et quand même en train de passer du national à la Ligue 1, quoi. Donc c'est assez exceptionnel, quoi. Après, vous avez par exemple Annecy Rodez. Faut que Rodez gagne à Annecy pour pouvoir rester devant, parce que je pense que Reims à domicile va faire le nécessaire, bien qu'on ne sait jamais. Mais si Annecy bat Rodez et que Reims ne gagne pas son match, c'est Annecy qui se retrouve cinquième qui va passer devant, quoi. Donc c'est assez exceptionnel à tous les niveaux. Maintenant Saint-Etienne joue Amiens, alors même qui a déjà qui est déjà officiellement en Ligue 3, donc ça c'est dans leur stade. Il devrait arriver à le battre, bien qu'on a vu, historiquement, on a vu des équipes comme ça qui sont capables de ne pas gagner, donc peuvent gagner. Après, ça va jouer avec comment Le Mans, ça ne va pas être évident pour Le Mans d'aller gagner à Bastia, quoi. Je pense que Saint-Etienne a encore de bonnes chances de monter directement. En Ligue 1.
Ah oui, en tout cas, ça va être une folle dernière journée parce que, comme tu l'as dit, Annecy est 7e avec 52 points, donc en embuscade juste derrière Reims avec 53 points. Et en bas de tableau, donc on va rappeler Laval 16e, 29 points. 17e, Bastia, 28 points. Bastia qui a même un goulavrage supérieur à celui de Laval. Et 18e, donc Amiens qui est condamné avec 24 points.
Mais Laval joue à domicile, non? Ils jouent quoi, Laval?
Bah, faudrait qu'on vérifie. Tiens, Théo va vérifier ce qu'on va jouer.
Je crois qu'il joue à domicile, ouais, donc Laval. Il faut que Bastia batte Le Mans, mais il faut aussi que Laval batte, ouais, ne prenne zéro point. Quoi.
Ouais. Là, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs scénarios complètement possibles. Hein,
Mais quand on repense quand même à cette équipe de 3 qui, la saison dernière, vous vous rappelez l'envahissement, c'est la saison dernière, ouais, l'envahissement du terrain, la rétrogradation nationale, et ils ont été repêchés, je crois. Donc, c'est assez exceptionnel quand même. Bon, maintenant, c'est un club qui a quand même des moyens, qui appartient au Citigroup et qui a quand même des moyens. Mais c'est quand même fort. Ce qu'il faut, c'est dur d'exister longtemps. On voit Dunkerque qui a fait des très belles choses la saison dernière, puis cette année qui...
Dans le ventre mou, Dunkerque. Ouais, dans le ventre mou. Théo, il joue contre qui, Laval ?
Laval joue à domicile contre Boulogne.
Ouais, contre Boulogne qui n'a plus rien à jouer. Hein. Donc, voilà,
Boulogne qui n'a plus rien à jouer. Oui. Voilà, maintenant, donc c'est vrai que sur le papier, on peut dire que ça va être plus simple pour Laval de rester dans cette place de barragiste, mais c'est pas pour ça que ce sera plus simple pour Le Mans d'aller gagner à Bastia, parce que Bastia, jusqu'au sauf s'il y a 5-0 pour Laval à la mi-temps, ils vont tout donner pour ils le disent, hein, les Corses, hein, eux, ce qu'ils voulaient, c'était en arriver là, ils voulaient arriver à ce moment-là, quoi, pour avoir leur chance. Était quand même condamné par tout le monde, donc c'est une chance sur 100 de jouer les barrages, mais ils vont la tenter à fond, quoi.
Oui, bien sûr. Allez, en national, bah justement, 32e journée, on connaîtra aussi qui affrontera le 16e de Ligue 2. Là aussi, une folle dernière journée, hein, avec Concarneau qui a fait nul contre le Paris 13 Atlético 0-0. Nul aussi pour Versailles face à Orléans 0-0. Et puis surtout, donc, Fleury-Mérogis qui bat le Puy 4-0. Et c'est peut-être Fleury qui va justement jouer ses barrages contre le 16e de Ligue 2, puisque Dijon est en tête avec 59 points devant Sochaux. Deuxième 57, troisième Fleury 54, quatrième Rouen 52, cinquième Versailles 49 et sixième Orléans 48. On va rappeler que Châteauroux était allé gagner à Dijon 2-1 et que Sochaux a concédé nul 1-1 à domicile contre Valenciennes et que Rouen est allé faire 0-0 à QRM. Donc ça laisse une deux dernières journées complètement folles, surtout dans ce match pour la troisième place entre Fleury, Rouen et même peut-être encore Versailles. Ouais.
Non, moi je pense que maintenant ça va se jouer uniquement entre
Fleury et Rouen.
On va voir. En tout cas, Rouen sait déjà, au moment où on se parle là, Rouen sait déjà que s'ils gagnent leur dernier match, quoi qu'il puisse se passer dans tout le championnat, dans tous les autres matchs, s'ils gagnent leur dernier match contre Rouen à domicile, ils termineront troisième.
Ouais, ouais.
Là, c'est sûr et certain. Mmh. Donc, ils peuvent même prendre des points à Orléans, parce que je pense que Orléans et Versailles ont, avec leur match nul 0-0, ils ont abdiqué dans l'espoir de monter. Donc, ils restent en lice, ils restent Rouen et
Fleury.
Et Fleury, et avec Rouen qui se dit dans sa tête, eux, de la même chose, sauf si jamais. Si Fleury gagne à Orléans et que Rouen ne gagne pas sur sa pelouse le week-end prochain, il n'y aura même pas de suspense pour savoir qui est troisième. Quoi. Ça sera officiellement Fleury qui va terminer troisième.
Et puis Stéphane, Fleury n'est qu'à 3 points de Sochaux, hein, qui sait en deux journées.
Je crois que Sochaux, ils ont un match facile, je crois. Ah. Mais j'ai regardé ça, effectivement. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas. Puis en plus, pourquoi pas. Parce qu'ils sont sur une telle dynamique, c'est incroyable. Quoi. Ils gagnent tous leurs matchs. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Quoi. Donc,
Avec un président que tu as eu l'occasion d'interviewer. Hein.
Tout à fait. D'ailleurs, je peux inviter les auditeurs à aller voir sur le site 433foot.fr, hein, 433foot.fr, qui parle beaucoup de football parisien, justement. Mmh. On a une très bonne interview de Pascal Bovis et le titre, c'est une surprise, mais pas un hasard. Quoi. Voilà. Il parle de la saison de Fleury. Je pense que ça résume complètement, quand vous avez discuté avec lui, quand vous connaissez un peu le club, ça résume tout à fait la philosophie de cette saison. C'est une surprise, mais pas un hasard. Mmh. Et il dit c'est une surprise. surprise parce qu'ils ont pris l'option de ne pas. Ils ont fait un choix fort l'été dernier, c'est qu'ils ont décidé de ne pas se renforcer et de jouer en national avec le groupe de qui était monté. Mmh. Donc en dehors de 2-3 blessés, 2 joueurs, je crois obligés d'être remplacés. Sinon, ils ont fait quasiment aucun, à part ces retouches-là, aucun recrutement. Ouais. Et donc, c'est ça un peu, lui dit, c'est un peu ça peut-être la surprise de voir que ce groupe est capable de jouer à ce niveau-là. Maintenant, après, sur la cohésion et tout, c'est assez exceptionnel ce que fait Fleury. Puis on espère que. Je crois que ce n'est pas fait officiellement encore, mais le Paris Atlético est quand même bien.
Alors, justement, j'allais dire, le Paris Atlético est 13e avec 31 points. Donc le Paris Atlético, c'est bon, hein, ils vont se maintenir. Et puis, le 15e, c'est Bourg-en-Bresse avec 28 points. 16e, Châteauroux, 26 points. Et 17e, Saint-Brieuc, 23 points. Ça veut dire que même là, entre Bourg-en-Bresse et Châteauroux, ça peut encore se jouer pour la descente.
Ouais, même on pourrait même envisager Bourg-en-Bresse qui mettent Paris 13, ils peuvent mettre Paris 13 Atlético en difficulté.
Ouais.
Hein.
Il y a trois points d'écart.
Il y a 3 ou 4 points, je crois, d'écart. Mmh. Et il reste 2 matchs. Et puis je crois que le Paris 13 Atlético a un sérieux adversaire au prochain match. Je crois qu'ils ont un sérieux adversaire. Donc ça va être un peu chaud. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont en ballotage favorable quand même pour.
Oui, je pense que ça devrait le faire quand même pour eux. Allez, on finit avec les féminines. Hein. On va rappeler que Lyon a gagné, est allé faire match nul dans son match en retard contre Nantes 1-1. Donc Lyon est en tête hein, à une journée de la fin. Quoi qu'il arrive, ils sortiront donc assez facilement donc de la phase de poule. Ils sont en tête devant le Paris FC, le Paris Saint-Germain et puis Nantes. Donc ça sera c'est le quatuor qu'on pouvait attendre. Et puis en Coupe d'Europe, tu le disais, effectivement, les Lyonnaises sont qualifiées puisque après leur défaite à Arsenal 2-1, elles se sont imposées 3-1. Elles affronteront le Barça qui, après son nul contre le Bayern 1-1, s'est imposé 4-2 à domicile. Donc là aussi, troisième club français qui va très loin en Coupe d'Europe avec une finale Lyon-Barcelone le 23 mai.
Oui, tout à fait. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué contre le Barça. Mais Lyon a été très fort, a marqué le but du 3-1 à la 85e minute, je crois, contre Arsenal. Donc ils ont fait preuve de force mentale aussi pour y arriver. Donc je pense que c'est leur objectif. Le championnat est tellement
mmh. Ouais, c'est joué. Il reste une journée. Hein. On connaît le carré d'as maintenant hein, pour les playoffs.
Voilà, ouais. Exactement. Maintenant, espérons, croisons les doigts pour Lyon et puis bravo quand même aussi au Paris Saint-Germain qui, rappelons-le, quand même a eu 9 points de pénalité quoi. Donc
absolument. Et qui joue la finale de Coupe de France ce dimanche contre Lyon justement. Voilà. Merci Stéphane hein, et puis rendez-vous donc la semaine prochaine hein, pour une belle semaine de foot. Merci en tout cas.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Voilà.
Bye.
Tout a été un petit mot Théo à rajouter sur tout ce qu'il vient de dire, non?
Hâte de demain et mercredi, c'est
absolument.
Tout.
Voilà. Merci en tout cas messieurs, merci pour le rugby à 13 hein. On va remercier, vous voyez, émission 13 Omnisport. Merci pour le foot US, merci à Jason d'avoir été donc une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. Et puis maintenant, on va laisser donc l'antenne à nos amis de au bout du foot. Juste un petit mot, on a 30 secondes. Comment tu vois ce match PSG ça va être compliqué, hein.
Je ne me risque à rien au vu du match aller.
Ça sera le même type de match.
J'imagine un match à peu près aussi ouvert, en effet.
Ouais, aussi indécis.
Dans tous les cas, le Bayern doit attaquer. Donc,
quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera deux belles équipes. C'était vraiment une finale avant la lettre.
Ouais. Totalement.
Merci en tout cas. Rendez-vous le 8 juin. Merci pour le rugby à 13. Cette émission, vous pourrez la retrouver comme toutes les émissions, hein, notamment celle de la semaine dernière en podcast. Hein, et puis, merci à Jason. Une nouvelle fois, belle soirée à toutes et à tous. On finit comme d'habitude en musique. À très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Je veux
blood, la mia, tout plein les bras, mon bleu consouille un peu mieux.
Paris FM.